On est chapitre 4, Mishnah 4. Et la Mishnah commence, elle dit comme ça. Elle dit, Evet Shinishba ou Daou. Donc on avait parlé dans les Mishnayot d'avant, on avait parlé de toutes sortes de takanot, toutes sortes de choses que les Rachamim avaient instaurées pour faciliter la vie des gens. Par exemple, le prouzboul, par exemple, comment une veuve pouvait prendre des biens des orphelins, etc. Donc là maintenant, on va repartir au concept de Gittin, au concept de divorce, mais on va pas parler du divorce d'une femme. On va parler de la libération d'un esclave. Puisqu'on avait expliqué dans le premier chapitre qu'il y avait beaucoup de similitudes entre le divorce d'une femme et la libération d'un esclave. C'est, juridiquement parlant, c'est presque la même chose. D'accord? Donc, Eved, Shenishba, Uvdaou. Un Eved. D'accord? Donc, un Eved, donc un esclave. Quand on parle d'un esclave ici, de quoi on parle? On parle d'un esclave Knaani, donc un esclave cananéen, qui appartient à un juif. Shenishba. Shenishba, ça veut dire qu'il a été pris en captivité. Il y avait des armées qui sont venues, une armée qui est venue, qui l'a pris en captivité. Ouvdaou, et d'autres personnes l'ont racheté, mais une fois que son maître avait déjà fait Yehush, avait déjà abandonné, avait déjà perdu espoir de le retrouver. D'accord? Donc là, on fait un petit peu bavamétie, hein, enfin un peu de tout là. Hein. Donc, un esclave qui appartenait à M. Reuven, l'esclave a été pris en captivité. On a appris que M. Reuven, avec le temps, il a perdu espoir de le retrouver. Et ensuite, M. Shimon, il vient par derrière, et il rachète l'esclave. Alors, le problème qu'on a, c'est quoi ici? Écoutez bien, excusez-moi, donc juste deux secondes. Le problème qu'on a ici, c'est quoi? C'est que si M. Reuven a abandonné son esclave, l'esclave n'est plus esclave. Vous comprenez le problème?
Il a été capturé.
Oui, d'accord, il a été capturé.
Il va être vendu au marché
mais
de l'esclave.
Mais capturé, c'est pas considéré comme une acquisition. Donc c'est comme si c'est considéré comme si qu'il était dans les airs. Ah bon? Eh oui, c'est pas simple.
La capture, c'est pas une acquisition?
Du tout, c'est un vol.
Mais peut-être qu'il appartient toujours à un
Reuven. Bah, attendez, on va voir. Mais il a abandonné.
Quoi, l'abandonné?
On va voir ce que dit la Mishnah.
On lui a pris mes...
Evet, Shenishba, Uvdaou, le Shevdaou. Donc un esclave qui a été pris en captivité, Uvdaou, et une autre personne l'a racheté, d'accord? Mais une fois que le maître initial a déjà abandonné, a perdu espoir de retrouver. Im le Shum Eved. Si ceux qui l'ont acheté, donc M. Shimon qui l'a acheté, il a acheté les Shum Eved, ça veut dire il a acheté avec l'intention de l'acheter en tant qu'esclave. Qu'est-ce que nous apprend la Mishnah? La Mishnah nous apprend Ishtabed, ça veut dire quoi Ishtabed? Ça veut dire qu'il va être soumis à Shimon, ça veut dire qu'il reste esclave à Shimon.
Ça
pourquoi
paraît évident,
écoutez bien, non, justement, on aurait pu penser, deux choses qu'on aurait pu penser ici. Premièrement, on aurait pu penser que puisque le maître initial l'a abandonné, dans ce cas-là... Il est libre, ça c'est la première chose qu'on aurait pu penser. Deuxième chose qu'on aurait pu penser, c'est que même si le maître initial il l'a abandonné seulement parce qu'il comptait pas le retrouver. Mais si quelqu'un l'a retrouvé, il se trouve que ce Shimon c'est son voisin, il lui dit mais c'est mon esclave. Hein? C'est mon esclave. Bien sûr que je l'ai abandonné parce que c'était une armée, qu'est-ce que je fasse? Maintenant que tu l'as pris, rends-le-moi. Qu'est-ce que nous dit? Im leshum eved, im leshum eved, ishtabed. Donc si il a acheté Shimon en tant qu'esclave, dans ce cas-là, ishtabed, ça veut dire que il va rester chez Shimon, il bouge pas. Im le Shum Ben Trorin, si maintenant Monsieur Shimon il a acheté le Shum Ben Trorin, ça veut dire il a acheté pour le libérer, il a vu quelqu'un qui était pris en captivité, il a dit moi je l'achète, je le libère. Dans ce cas-là, lo ishtaben, dans ce cas-là il n'est plus soumis à personne, ni bien sûr à Shimon, puisque Shimon l'a acheté pour le libérer, et ni à Reuven, bien que Reuven l'a en vérité jamais libéré. Il a simplement perdu espoir de le retrouver. Dès qu'il a perdu espoir de le retrouver, on apprend qu'à ce moment-là, l'esclave n'a plus rien à voir avec Reuven. Ça, c'est un premier avis. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Benkar ou Benkar, c'est-à-dire peu importe le cas de figure, que ce soit qu'on l'a racheté en tant qu'esclave ou que ce soit qu'on l'a racheté pour le libérer, Ishtabed, de toutes les façons, d'accord, Ishtabed, il sera... soumis toujours à son premier maître. Pourquoi? On nous explique la Gemara. Parce que sinon, un esclave qui veut se libérer de son maître, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait un esclave qui veut se libérer de son maître? Il attend que c'est un peu chaud dans la ville, il y a l'armée qui vient, et il se livre à l'armée. Il dit voilà, prenez-moi, je suis un esclave. Eux, l'armée, ils vont le revendre. Alors, ou ils vont le revendre, ou ils vont le lâcher, et pour lui, ça y est, c'est fini. Le maître, même s'il va repasser dans la même ville que le maître initial, il va dire ah, ça y est, t'as abandonné de le retrouver. Donc c'est pour ça que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense que dans tous les cas de figure, l'esclave revient au propriétaire initial. D'accord? Mais, attention, d'accord? Attention, s'il a été racheté par Shimon pour le rendre esclave. Et dans ce cas-là, on a dit que de toutes les façons, l'esclave, on doit le rendre à monsieur Reuven. On est bien d'accord. Mais Shimon, il a payé, ce que vous avez dit, monsieur Bismuth, tout à l'heure. Bien entendu, on lui rembourse l'argent. D'accord? Voilà. On lui rembourse l'argent, mais, écoutez bien, c'est intéressant, c'est le Ran qui explique. Il dit qu'on rembourse l'argent que si Shimon a acheté l'esclave en tant qu'esclave, pour le garder en tant qu'esclave. C'est là qu'il dit, moi, j'ai fait l'acquisition d'un bien, rends-moi mon bien. Mais, écoutez bien, si Shimon a acheté cet esclave-là pour le libérer, et puis après, ben, de facto, selon Rabbi Shimon ben Gamliel, on dit que de toutes les façons, l'esclave reviendra à Reuven, Shimon a perdu ses sous. Parce qu'on considère que quelqu'un qui met de l'argent pour racheter un prisonnier, c'est considéré comme quelqu'un qui a abandonné son argent. C'est-à-dire que pour lui, c'est une tzedaka.
Oui, mais attends, là, c'était pas pour la...
Ah oui.
C'était pas pour acheter un...
C'était pour libérer.
Non, c'était pour se payer un esclave.
Non, on dit que ça dépend. S'il a fait pour se payer un esclave, là, il faut le rembourser. Mais s'il l'a fait pour le libérer, il dit, voilà, je vois quelqu'un de bien, je veux vous libérer, et qu'après, selon Rabbi Shimon ben Gamliel, de toutes les façons, il va revenir au propriétaire initial.
Ouais.
Est-ce que le propriétaire initial doit rembourser, doit payer de l'argent à Shimon qui l'a racheté?
Non.
Parce que Shimon l'a pas acheté pour l'avoir en tant qu'esclave, il l'a acheté pour le libérer, et c'est considéré comme FK. C'est un chidouche.
Avec
c'est un
chidouche. Comme quoi qu'il avait l'intention de le libérer.
Pardon?
Il faut qu'il le, avec ses mains,
certainement, bon, on a des contrats, ça c'est pas un problème, ça.
Pour Yehouch, paraît, excuse-moi, j'étais pas au courant précédent. Pour Yehouch, il faut qu'il y ait deux témoins.
Bah, on sait qu'il a abandonné.
Comment c'est une rumeur.
Ou il y a une rumeur, ou bien on sait qu'une personne, au bout d'un certain temps, elle abandonne, c'est fini, elle ne va plus le retrouver.
Rumeur, c'est suffisant?
Même sans rumeur. C'est les statistiques qui font qu'on sait qu'une personne abandonne, c'est fini.
Si dit, il n'a pas abandonné.
Ben, il peut pas abandonner comme il veut, mais ça change rien.
Ça appartient, il appartenait.
Non, ça change rien. Si dans les statistiques on pense qu'il a abandonné, certainement une personne a abandonné au bout de quelques jours, quelques semaines. Hein, ça, c'est le bed-in qui fixera ça, mais
d'accord.
Moi je dis même quelques jours. Hein. Au bout de quelques jours, on a abandonné, c'est fini. Une fois que c'était pris par l'armée, c'est fini, on ne peut plus retrouver. Alors, Eved, Shasao Rabo Apotiki Laherim. Ah, donc apotiki, c'est un mot grec qui veut dire gage. D'accord? Qui veut dire gage.
Hypothèque.
Exactement. Donc, un esclave, shasao rabo apotiki l'acherim, que son maître, l'a rendu en hypothèque à d'autres personnes. En d'autres termes, c'est-à-dire que Reuven emprunte de l'argent à quelqu'un, et il lui dit, t'inquiète pas, s'il y a un problème, j'ai du mal à rembourser ma dette, tu prends mon esclave à la place. Une hypothèque. D'accord? Apotiki. Donc c'est un mot grec. Bon. Alors, donc Shasao Rabo Apotiki la
Kherim. Je ne peux pas dire ça, je ne suis pas d'accord, moi je connais le grec, hein, j'ai des racines. Apotiki, ça veut dire final.
Alors, monsieur Bismuth, apotiki en grec, si vous voulez aller plus loin, ça veut dire apotiki, ça veut dire ici il tiendra.
Ici soit debout, ils ont dit.
Ici soit debout, ouais. C'est ici qu'il tiendra.
Parce qu'ils ont dit potéhe.
Kae.
Ouais.
Mais à la base, le mot apotiki, c'est un mot grec. C'est grec, c'est,
oui,
c'est un mot grec. Même le mot hypothèque. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque de la Gemara, on avait un style d'hypothèque, je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui. C'est qu'on avait un style d'hypothèque que, quand je mettais par exemple en hypothèque ma maison ou mon esclave, je pouvais demander qu'on se serve directement de ma maison et de mon esclave. Pas que si j'ai pas de quoi rembourser en espèces, alors on ira se servir chez... Ça, c'est une hypothèque aujourd'hui. Une hypothèque, c'est si j'ai pas de quoi rembourser la dette, on va se servir de ma maison. Mais il y avait un style d'hypothèque à l'époque qui était que je pouvais dire dès le départ, dès que le jour où tu dois prendre la dette, tu prends directement ma maison. Ça s'appelait aussi une hypothèque.
C'est plus une hypothèque, mais tu dis directement.
Oui, bon, c'est plus une hypothèque, si, c'est encore une hypothèque, puisque la maison, je continue à en profiter. Mais elle est réservée pour la personne. Bon, je sais pas si ça existe aujourd'hui, ce style d'hypothèque. En tout cas, je sais pas si ça s'appelle hypothèque, en tout cas. Hein. Mm-hmm. Comment on aurait appelé ça en français, Julien?
Mais ils ont traduit d'ailleurs le mot apotiki par hypothèque, en français, ici.
Oui, c'est une hypothèque. Sauf que la différence avec l'hypothèque qu'on connaît, c'est que dans l'hypothèque de l'époque de la Gemara, on n'est pas obligé, mais on pouvait dire dès le départ que la personne peut se servir directement sans poser de questions, quoi. Sans que d'abord il demande des espèces, j'ai pas de quoi de le payer, alors là il va se servir. Directement, il se sert du bien. Alors, Evet Chasao Rabo Apotiki Lachrim, un esclave, que son maître l'a rendu un apotiki, donc il a mis en hypothèque Lachrim à d'autres personnes, donc pour un prêt. Veshichero, et le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que, entre temps, le maître l'a libéré. Il a libéré son esclave, il a dit, bon, t'as assez bossé, je te libère. Écoutez bien. Shurat adin, selon le din, en eved chayav klum. Le eved, l'esclave, ne doit rien au prêteur. C'est-à-dire, imaginez-vous que moi je suis Reuven, j'emprunte à Shimon, d'accord, et je lui dis, je mets en hypothèque mon esclave. Ensuite, je libère mon esclave quelques mois plus tard, quelques mois plus loin. Normalement, d'accord, si ce sera un terrain, même si j'ai vendu le terrain à une autre personne, puisque le terrain était déjà hypothéqué, on récupère le terrain. D'accord, la vente est annulée. Le problème là, c'est que c'est un esclave. Qu'on peut pas annuler la libération de l'esclave. Bien d'accord. Donc si on voit selon la stricte halakha, le Eved ne doit rien à personne. L'esclave ne doit rien à personne. Il doit rien à personne, ça veut dire que l'esclave maintenant, il dit moi je suis libre, maintenant vous me laissez tranquille. Bien entendu, Reuven devra rembourser sa dette. C'est sûr ça. Mais on ne pourra pas se servir directement sur l'esclave. Ça c'est Shura Tadim, c'est ce que le dit.
Si l'esclave il meurt.
Pareil, si je mets en hypothèque ma maison elle brûle. C'est sûr, toutes les façons de payer, c'est sûr ça.
D'accord.
Donc, l'esclave ne doit rien payer, normalement. Ça c'est le din. Parce que l'esclave, c'est fini, il est libéré. Et là seulement, mipne tikkun haolam. Mais pour le tikkun haolam, ça veut dire que pour le... Bah, sinon on n'en finit plus, d'accord? Parce que sinon si on met en hypothèque un esclave et qu'on le libère, on n'en finit plus. Donc pour éviter ce genre de problème, kofi nedrabo. Veose oto ben chorin, vekotev shtar al damav. Alors écoutez bien, pour éviter les problèmes, c'est quoi le problème qu'on a? Il y a plusieurs problèmes. Le problème principal que la Gemara dit, c'est parce que après, qu'est-ce qui peut arriver? Donc cet esclave-là est libre. Une fois qu'il est libre, il peut devenir juif s'il veut. Quand il est libre, imaginez-vous maintenant Monsieur Shimon qui le rencontre sur la place du marché. Et il n'a pas encore ajusté sous de Reuven. D'après vous, qu'est-ce qu'il va dire à cette
C'est mon esclave. Rentre à la maison avec moi tout de suite.
C'est mon esclave. Même si, dans les faits, il va rien se passer, mais il va se moquer de lui. Il va se moquer de lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kofi Nedrabo, donc on va forcer Shimon, c'est méchant. On va forcer le deuxième maître, hypothétique, quoi, d'accord? On va... Hypothétique, ouais. Hein, hypothèque. On va forcer le deuxième maître, Shimon, Veose Oto Ben Chorin. On va forcer de le libérer. Ça veut dire, on va dire maintenant, tu vas écrire un contrat dans lequel tu dis que tu n'as rien à voir avec cet esclave. Ve Kotev Shtar Aldamav. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il va faire l'esclave en contrepartie? L'esclave va écrire un contrat Aldamav sur l'argent qu'il vaut. Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il va lui écrire combien je vaux environ. Combien? Ça veut dire que l'esclave va lui dire, voilà, sur la place du marché, je valais tant et tant. En d'autres termes, c'est pour dire que Shimon doit se séparer entièrement de l'esclave pour dire l'esclave n'a rien à faire avec moi. Pour éviter qu'il va venir par la suite et qu'il va l'attaquer, qu'il va dire oui, t'es mon esclave. D'accord? Vous voyez comment on pense à ça? Rabat Shimon Megamiel Omer, Enokotev et la Meshacher. Rabat Shimon Megamiel, il dit non. Il dit, on n'écrit pas, on n'a pas besoin d'écrire un contrat, on n'a pas besoin de faire ça par l'écrit. Mais, c'est pas, alors, donc lui il dit comme ça, il dit, c'est pas le deuxième maître, c'est pas Shimon qui doit écrire un contrat, mais c'est Reuven. C'est le premier, celui qui l'a libéré, que bien que normalement
non,
il est pas...
Le premier, c'est pas celui qui l'a libéré, c'est le...
Si,
le...
c'est Reuven. Le premier, c'est Reuven, celui qui l'a libéré. C'est lui qui va écrire un contrat. Et qu'est-ce qu'il écrit le contrat? Il dit, je t'ai libéré, et je dois toujours, tant et tant à un tel. Comme ça, le jour où on va se moquer de lui, de cet esclave, il sort le contrat, il dit, ah, regardez, c'est écrit. Moi, il m'a libéré, mais il a écrit qu'il doit toujours de l'argent, donc laissez-moi tranquille. Donc, il m'a reconnu entre Rabat Shimon Gamiel et Tanakama, qui doit écrire le contrat? Si vous voulez, le contrat, c'est un petit peu la preuve que l'esclave sortira dès qu'on lui prend la tête. D'accord? Qui doit écrire ce contrat? Est-ce que c'est le premier maître? Ça veut dire, est-ce que c'est le maître de l'esclave? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est le prêteur? D'accord? Le deuxième, Shimon. Est-ce que c'est Reuven ou est-ce que Shimon? Bon, dans les faits, ça change pas grand-chose. Ce qui compte, en tout cas, c'est qu'on voit que, ils ont pensé ici au Tikkun HaOlam, c'est-à-dire, ils ont pensé au fait qu'on peut pas libérer un esclave, et d'un autre côté, après, que les gens vont se mettre à se moquer de lui, vont dire t'es pas libéré. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait dit que les Rachamim avaient fait le même style de takanot par rapport à une femme. Que des fois, il y a un guet qui est caché, hein, mais il y a des fois des circonstances qui peuvent arriver que le mari il peut utiliser une femme pour dire ouais, elle est pas divorcée, je l'ai jamais divorcée. Un mari il peut se remarier, d'accord, à l'époque il pouvait se marier avec deux femmes. Donc puis plus, c'est la même chose. Les Rachamim ont fait des takanot aussi pour ça, pour éviter ce style de problème, pour qu'il y ait pas de problème sur un guet. Quand d'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bedin il garde une copie du guet. Quand le Bedin il garde une copie du guet. Mariage, pas forcément, non. Mariage, ils écrivent dans les annales, mais ils n'ont pas de copie. On écrit, pourquoi on écrit? Comme ça, le jour où, si un jour quelqu'un il dira oui, elle a jamais été divorcée. Parce qu'en général, quand une femme se marie, on estime que tout va bien, personne va aller parler de mal sur elle. Mais donc, c'est pour ça qu'on écrit dans les archives, c'est tout. Mais le guet, on garde toujours une copie dans le Bedin. D'accord ? On garde une copie.
D'ailleurs, pendant le divorce, il ne donne pas le guet.
Ah, je sais pas comment. Il ne donne pas le guet aujourd'hui ? Il ne donne même plus le guet ?
Non, il peut le demander. Il aura une petite copie.
Mais il le donne dans la main de la femme d'abord. Là-bas, il ne le donne pas ?
Non, tu fais le geste.
D'accord, on fait le geste. Mais, après, mais le contrat, l'original, c'est celui qui le garde.
Oui,
c'est très bizarre. Hein.
Ah, il le donne,
il
faut... Comment qu'il peut faire un mari? Il le donne, il est payant.
Il est payant, d'accord.
C'est un mari. C'est aux autres de prouver qu'elle est, elle est encore mariée.
Il n'y a pas de problème. Archiquement parlant, on a expliqué que, même hier, on l'a dit encore une fois dans le cours de Gemara, on a parlé un peu de Gittin aussi, on a dit que le guet, il suffit simplement de donner le guet. Une fois qu'on a donné le guet, la femme est divorcée, c'est fini.
D'accord, mais si elle veut se remarier, la personne qui veut se remarier avec elle, prouve-moi que tu es...
Si elle a une copie. Je savais pas que le wedding détruisait.
Si elle récupère dans les mains, c'est pas cette garde. Si elle récupère ce que le mari lui donne, c'est pas cette garde. Alors peut-être qu'au consistoire, c'est autre chose, je sais pas.
Il fait une copie, à mon avis.
C'est une copie, mais il lui dit qu'il détruise. C'est intéressant.
Ton avis, moi je suis passé à la casserole, il peut rappeler une guerre. Alors je crois pas que c'est
possible. Ils détruisent le guet.
Moi, j'avais pas pour D'accord. payer, mais je pense que si j'avais payé, il m'aurait donné le
guet.
Il m'aurait donné.
Bon, de toutes les façons, ils gardent dans les archives du Bazin. Voilà.
Je suis redevable. Parce que si je vais pas leur payer, je pourrais pas me remarier.
Il n'y a pas besoin du guet après. Il n'y a plus besoin du guet. Ce qui compte, c'est de l'avoir donné. Une fois qu'on a donné le guet, après c'est fini.
Ah, mais si je leur paye pas, je peux pas me remarier par le Bazin. Je suis obligé de leur payer le.
Pourquoi ?
Tu payes la procédure, tu payes pas le papier.
C'est un gage pour eux de garder le guet.
Faut pas vous remarier si vous avez pas payé.
Bien sûr.
Mais ça n'a rien à voir, tu restes en dette et tu peux te remarier 53 fois.
Celui qui t'appelle le Bazin dit, je veux savoir, est-ce qu'un tel est divorcé? On va lui répondre, bien sûr qu'il est divorcé. Ils vont lui répondre, ils vont dire, monsieur, on sait pas, il a pas payé.
Non, mais il faut fournir le guet.
Toi, tu l'as pas, le guet. C'est la femme qui doit recevoir le guet.
Je connais pas les procédures.
Même pour la femme.
Ok, on y va, messieurs.
Tu restes en dette avec la femme.
Mais elle est divorcée.
Elle ne peut pas se remarier si elle
n'a
pas payé la balance.
Elle n'est pas fixée.
Ils sont partis jusqu'au guet. Ils ont eu le guet. Une fois qu'ils ont eu le guet, ils ont réalisé qu'ils ont fait une grosse erreur. Une fois qu'ils ont eu le guet, ils ont dû attendre un mois. Ils se sont séparés un mois pour pouvoir se remarier.
Ils ont eu le guet.
Pendant un mois,
voilà.
Ils sont restés de côté. Un mois, ils
se
remariés après.
Allez, messieurs, on y va. Une personne qui est à moitié esclave, d'accord, et à moitié libre. Ça veut dire quoi? Par exemple, messieurs, si on a un esclave, d'accord, cananéen, qui appartient à deux associés. Il y a un des deux associés qui a libéré l'esclave, d'accord, qui a libéré l'esclave. Donc, du coup, l'esclave est libéré à moitié. Ça peut être un premier cas de figure. Deuxième cas de figure peut être que l'esclave appartenait à un seul maître, mais il y a quelqu'un qui est venu voir le maître et qui lui a dit « Je voudrais libérer cet esclave ». Il lui a dit « Combien tu veux ?» Il lui a dit « Je veux 20 000 euros ». Il a dit « Écoute, moi, j'ai que 10 000 euros. » Il dit « Pas de problème, donne-moi 10 000 euros, je le libère de mes journées. » D'accord ? Donc, ça, du coup, on a un esclave, c'est à l'arrivement parlant, ça existe, qui est moitié esclave, moitié bentrorin, moitié libre. « Oved adrabo yomichad, vetatmo yomichad. » Alors, le problème qu'on a, c'est quoi ? C'est que cet esclave, du coup, il peut pas aller en vacances, il peut rien faire. Alors, comment, d'après vous, on aurait fait?
On peut avoir 15 jours et 15 jours.
Alors, on pourrait avoir 15 jours, 15 jours. On pourrait avoir 6 mois, 6 mois.
La garde.
On pourrait avoir demi-journée, demi-journée.
Oui.
C'est peut-être plus simple, demi-journée, demi-journée. Je te dis non. Qu'est-ce qu'il dit? Oved et Rabo Yom Echal, Vetesmo Yom Echal. Premier avis, c'est l'avis de Beth Hillel, qui dit que il devra servir son maître un jour, et il se sert soi-même, ça veut dire il fait ce qu'il veut, pendant un jour. Donc, pas de demi-journée. On considère que demi-journée, c'est trop galère. Une journée pour le maître, une journée. Et comme ça, on tourne. D'accord? Diviré Beth Hillel, ça c'est les paroles de Beth Hillel. Amroulem, Beth Shammai, Beth Shammai, ils sont tournés vers Beth Hillel, ils leur ont dit, Tinkatem et Rabo. Ils ont dit, vous avez peut-être arrangé son maître, parce que son maître maintenant, il a un esclave, donc il n'a pas perdu. Il a un esclave à mi-temps. Bon, peut-être. Mais, Vet Atmolo Tikantem, mais l'esclave, vous ne l'avez pas arrangé. Pourquoi? Parce que Lisa Shifra, Yevchar. Se marier avec une servante cananéenne, il ne peut pas, puisqu'il est à moitié juif. D'accord ? Shekvar Chetio Ben Trorin, parce qu'on l'a libéré.
Bah, et ça ne veut pas dire qu'il a...
Oui, il est juif. Non, il est juif, il devient juif, ça y est.
Ah, c'est le postulat.
Bien sûr, en général. D'accord ? Donc Shekvar Chetio Ben Trorin, parce qu'il est déjà à moitié libre. Donc puisqu'il est à moitié libre, il ne peut plus se marier avec une esclave cananéenne. D'un autre côté, Batrorin Yevchar, se marier avec une femme. D'accord ? On ne va pas se marier à mi-temps avec une femme. D'accord. Batrorine, Yevchar, se marier avec une Batrorine, c'est avec une femme libre, Yevchar, il ne peut pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il est encore, il a encore une moitié dans laquelle il est esclave. Alors quoi, Ibatel, il ne va pas se marier? Tu le laisses comme ça, il ne peut pas se marier, il est bloqué. Val lo nivra olam et Alpiria Verivia. Mais je ne comprends pas, Betchama ils disent. Betchama ils disent, mais le monde n'a été créé que les Piria Verivia, ça veut dire pour avoir des enfants. Chez Neymar, comme c'est écrit. L'auto Beraa, comme c'est écrit dans Isaïe. L'auto Beraa, Kadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour qu'il soit en mode Tohu. Ça veut dire vide, d'accord? Inhabité. La Shevet Yetzara. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il soit installé, pour qu'il soit habité. Donc il faut bien faire des enfants. Et là seulement, disent Beth Shammai, écoutez bien ce qu'ils disent Beth Shammai, il venait Tikkun HaOlam. Pour Tikkun HaOlam, encore une fois, c'est-à-dire pour arranger le monde, c'est-à-dire pour ne pas arriver à ce style de problème, et pour ne pas faire que l'esclave ne peut pas se marier, enfin ce demi-esclave ne peut pas se marier, Kofi Nedrabo. On oblige son maître. Veose Oto Ben Trorin, et il a l'obligation de le libérer. Ve Kotev Shtar Al Khati Damav. Mais par contre, l'esclave va écrire un contrat au maître dans lequel il va dire que je te dois encore, d'accord, la moitié de ce que je vaux. Donc on va faire à l'époque au marché, par exemple, si on voit qu'il vaut 20 000 euros, donc il y a quelqu'un qui a payé 10 000 euros par exemple, ou bien il y a un des associés qui l'a libéré, l'esclave va devoir être libéré, mais l'esclave va faire un contrat dans lequel il dit à son maître, enfin celui qui a encore son maître, je te dois encore 10 000 euros. D'accord? Et c'est comme ça qu'on fait. Et écoutez bien ce qui est intéressant. Vechazrou, Beth Hillel, le Ros, que dirait Beth Shammai. Beth Hillel ont accepté les paroles de Beth Shammai, et ils ont recommencé donc à enseigner comme les paroles de Beth Shammai. D'accord? C'est assez rare qu'on voit ça dans la Mishnah, hein, que Beth Hillel était d'accord avec Beth Shammai. C'est vrai que l'argument de Beth Shammai ici, il est très fort.
Non, mieux, il a même fait marche arrière.
Non, c'est que l'esclave, il avait le droit de se marier.
Non, il ne peut pas se marier. Ah non.
Mais quand il est,
mais là,
quand il est entièrement esclave, il est là.
Ça, il peut.
Il a le droit de se marier.
Il peut se marier quand il est entièrement esclave, il peut se marier avec une esclave cananéenne. Mais là, le problème qu'on a, c'est que le mariage, on ne peut pas se marier à demi-journée. Vous comprenez, c'est ça le problème. Donc, se marier avec une esclave, il ne peut pas. Il est à mi-temps, il est juif. Se marier avec une juive normale, il peut pas, parce qu'à mi-temps, il est esclave. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le libérer.
Ce qui me gêne, c'est la conception. Il a un demi-statut, quoi.
On peut pas.
Mais oui, donc il est juif.
D'accord.
Bon, monsieur, bonne journée.
D'accord, quelle heure il est? Ouais, ça va être ici pour
lui. Complètement gêné. Bonne journée.